Sur les ondes de Radio Diwa, le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. Vous êtes en direct, vous écoutez l'émission spéciale sur les espiègleries. Au micro, de retour, Fabien Lombard et Alexandre Lutic.
Bonjour.
Alors là, on va pouvoir faire une interview fleuve, on va pouvoir dire tout et surtout, enfin, parler de la vraie vie des viticulteurs. Par exemple, commençons par le début, Alexandre, comment on devient viticulteur? Est-ce que c'est obligatoirement quelque chose, je sais pas, de père en fils, ou est-ce que ça peut naître comme ça d'autres choses?
Alors pour mon cas, moi je suis hors contexte familial, ça veut dire que je suis arrivé à la viticulture pas par hasard, mais par un chemin un peu différent des autres. Avant, j'étais dans le Diwa pour d'autres professions, dans le plein air, donc l'escalade et ce qui entoure l'escalade. Et entre les saisons, bah, il nous faut travailler un peu. Et la cave coopérative fournissait du boulot entre les saisons. J'y suis allé travailler. J'ai réceptionné le raisin pendant quelques années. Et puis la complicité s'est faite avec les viticulteurs. Et il y a des viticulteurs qui sont sortants, qui partent à la retraite, qui n'ont pas forcément un suivi dans la famille. Et on va dire que les complicités sont faites. Et j'ai eu l'occasion de m'installer au début avec un tout petit demi-hectare en tant que cotisant solidaire. Et puis, au fur et à mesure de gratter, on avance. Et puis, je me suis installé il y a 5 ans.
Voilà. Donc là, installé tout seul, on y va. Vous avez planté des vignes ou vous avez récupéré déjà des vignes existantes? Comment on se renseigne? C'est un vrai métier, il faut un vrai savoir-faire.
C'est un vrai métier. On va commencer par le début. Donc, ouais. C'est la reprise des études.
Ah oui.
Voilà, donc passer un BPRE, un brevet professionnel de responsabilité en exploitation agricole. Et pendant ce brevet, on apprend à travailler la vigne, beaucoup au niveau technique, pas beaucoup au niveau pratique. Et puis après,
ça veut dire que c'est trop théorique, c'est ça? Et qu'une fois tout seul dans sa vigne, c'est compliqué?
C'est très théorique, voilà. Mais okay. On ne vous laisse pas tout seul dans la vigne après comme ça. D'accord. Quand on s'installe. On est suivi par la cave, si on est à la cave, on est suivi par la chambre d'agriculture, et puis par le paysan qui laisse ses terres, qui garde toujours un œil, voilà, qui ne vous lâche pas comme ça.
Et là, ça fait 5 ans, et en 5 ans, comment votre vie, elle a changé concrètement? Est-ce que c'est que du bonheur? Non, c'est pas possible, ça.
Alors, si, le bureau, il est sympa, hein, on va pas se plaindre. Hein. Tous les jours au bureau comme ça, je souhaite à tout le monde. Hein. Après, c'est comme tous les métiers, hein, on a ses bons côtés, ses moins bons côtés, ses choses difficiles, ses choses plus faciles. Bon, y a des moments où on est à mi-temps, 12 heures par jour, puis il y a des moments où on peut se reposer, aller chercher les enfants à l'école, passer quelques jours de vacances avec eux. Donc voilà, c'est une vie comme tout le monde, sauf qu'elle est calée sur les saisons, elle est calée sur les travaux. Voilà, c'est quelque chose de proche de la nature, quoi. On revit, je pense. Quand on a eu d'autres métiers un peu speed, on revit bien.
Ça veut dire que c'est quelque chose d'intense, de prenant, avec tous les risques dont on va parler ensuite, hein. C'est vrai que vous suivez les saisons, la mauvaise météo peut compliquer le travail, mais au final, quand c'est une vraie passion, c'est ça qui vous nourrit et qui vous fait vivre au niveau, je veux dire, émotionnel aussi, quoi.
Tout à fait. Dans une journée, on arrive à faire les 4 saisons au niveau du moral, quoi. Tout va bien, tout va mal, oups, c'est tendancieux, oups, ça va super bien, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, on se lève le matin, on est content d'aller bosser, quoi. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Puis après, qu'on n'est pas content avec soi-même, on s'engueule. Voilà. Le patron, il est sympa cette année.
du coup, tu travailles tout seul?
Alors, je travaille tout seul sur mon exploitation. Mon épouse vient me donner un coup de main. Et puis, il y a l'agriculteur sortant, puisque cette année, c'était sa dernière année. Il est parti à la retraite, qui garde un œil, continue de me conseiller, me suit. Et puis, quand j'ai fait un peu trop de tracteur, il monte sur le tracteur à ma place.
C'est-à-dire que quand tu prends une exploitation, il y a un moment comme ça où on travaille ensemble pour la transmission?
Alors, oui, sur la reprise d'exploitation, ça fonctionne comme ça.
Parce qu'il y a à savoir. Reprenons du début, qu'est-ce qu'une reprise d'exploitation vraiment concrètement?
Alors la reprise d'exploitation, c'est la reprise donc en début des terres. Donc on prend ou qu'on rachète ou qu'on prend en fermage. Donc on va louer, comme on loue plein de choses. Et en même temps de cela, l'agriculteur qui a travaillé toutes ces années sur cette terre-là transmet son savoir. Il accepte de donner ses terres à quelqu'un, mais en même temps il a envie de transmettre. Et ça, c'est super important. Surtout que cette génération a connu beaucoup de choses au niveau de l'évolution du matériel pour travailler et donc du coup de l'évolution de ses parcelles. Et voilà, Après, parfois, il y a quelques conflits parce que nous, on a des visions qui sont un peu différentes. Mais c'est constructeur.
Plus moderne aussi, entre la version ancienne. Des fois, là, je suppose qu'il y a des viticulteurs qui arrêtent, qui ont un certain âge, avec des fois des gens plus jeunes qui arrivent. La transmission au niveau des générations, ça se passe comment ?
Alors, sur la globalité, dans le Diois, ça se passe super bien parce qu'ils ont vraiment une ouverture d'esprit qui est extraordinaire. Après, c'est sur des détails. C'est des détails parce qu'ils ont toujours travaillé comme ça et on apporte des petits détails. Mais c'est juste sur les détails. Mais je pense que c'est comme dans un couple. On se dispute toujours sur les détails, pas sur la globalité, comment on élève les enfants et comment on avance. C'est exactement pareil.
Fabien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce quotidien de viticulteur, toi qui le suis de près aussi
Écoutez, effectivement, j'ai écouté Alexandre avec attention parce que je connais finalement assez mal son parcours. Et donc, c'est très important de voir d'où on vient et où on a envie d'aller avec ses vignes, ses raisins. Juste avant de prendre l'antenne, on avait un petit échange sur le métier de vigneron ou de viticulteur. Je sais que souvent, on nous pose la question, vous êtes quoi alors, un vigneron, un viticulteur? Et on échangeait à ce niveau-là. Donc, effectivement, généralement, on dit qu'un viticulteur, il cultive la vigne et il arrive à produire un raisin qui souvent est transformé soit par un négociant, soit par une cave coopérative. Et le vigneron, normalement, il va jusqu'au bout du processus. Ça, c'est la définition classique. Mais moi, il me semble que voilà, quand on est comme Alexandre adhérent à une cave coopérative, on est aussi vigneron parce que c'est le prolongement de la coopérative. C'est aussi notre raisin, au final, qui est dans une bouteille qui va être commercialisée. Certes, on n'est pas toute la journée dans les cuves.
Je suppose que ça vous importe de savoir ce que ça va donner, quoi.
Mais du coup, là, on n'est pas détaché, on n'est pas juste un producteur de raisins. Le métier de vigneron, c'est au-delà d'une production classique. On ne produit pas du blé qui va être mis en commun dans un silo. Je pense qu'il y a vraiment une notion d'appellation d'origine contrôlée aussi qui est importante, de transmission de savoir. Il y a plus de 2000 ans qu'il y a des vignes dans notre vallée. À un moment, voilà, il y a un passé qui est important. Donc ça, c'est la première réflexion que j'avais. Puis il y en avait une deuxième, c'est sur la saisonnalité. C'est vrai que ça, c'est vraiment important. Moi, c'est ce que je ressens aussi très souvent, c'est qu'on a un métier qui se répète d'année en année. En gros, on fait toujours la même chose. Hein. Mais par contre, on a une telle multitude de tâches qui varient d'une journée à l'autre, ou d'une saison à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, que finalement, ça fait un métier qui est assez merveilleux parce qu'on se renouvelle tout le temps. Et il n'y a pas de routine dans notre métier. On l'a peut-être d'année en année, mais finalement, on a oublié l'année d'avant. Et du coup, on reprend avec passion de tailler l'hiver, de vendanger avec une équipe de vendangeurs, des bourgeonnés comme en ce moment. On sélectionne sur les pampres les petits bourgeons. Et puis, quand il fait un peu chaud, on y va le matin. Et puis, l'après-midi, on va faire plutôt administratif où on se repose, ou pour moi en tout cas on va jouer en cave, enfin voilà. Et donc il y a une vraie saisonnalité et on ressent ces saisons, hein. Moi j'ai personnellement un rythme beaucoup plus intense en ce moment, les jours sont très longs et ça donne de l'énergie, alors que l'hiver franchement le soir j'aime bien rentrer, me mettre au coin du feu, jouer aux échecs avec les enfants, voilà. Et donc il y a des journées qui s'adaptent et ça c'est, enfin pour moi c'est important dans le métier de vigneron.
Aujourd'hui on est recouvert de gens qui nous parlent de projets, de gestion de projets, etc. Est-ce que justement c'est compatible avec ce genre de choses ? Est-ce que quand on a une vie qui est, on va dire, routinière d'année en année, avec finalement le projet, c'est de faire du vin ou en tout cas d'arriver à une récolte de raisins, est-ce qu'il est permis quand même d'avoir des projets ? Et qu'est-ce que c'est les projets qu'on peut mener en tant que viticulteur ou que vigneron ?
C'est une bonne question, ça. Par rapport à l'exploitation, c'est toujours la remise en cause ou en question de ce qu'on fait. Pourquoi on ne pourrait pas faire mieux ? Ça, c'est le projet à la base de l'exploitation. Après, au niveau familial, moi, j'ai la chance, j'ai des enfants, j'ai une femme, une épouse. Donc, c'est eux qui les apportent. Donc, il y a un moment, ils sont dans la vigne avec nous, donc ça parle de vie, mais ils ont une vie à côté. Et donc, les projets familiales sont les mêmes que pour tout le monde, hein. Sauf qu'on s'adapte, comme vient de le dire Fabien, aux saisons. Donc c'est rare qu'au mois de juillet, on parte en vacances. Voilà. Mais parfois, ça arrive aux enfants de rater un peu l'école, on va dire début septembre, si on arrive à caler les vendanges un peu plus tard. Voilà.
Il n'y a pas longtemps, pour revenir sur... du coup, on voulait savoir ce que c'était la vraie vie de viticulteur. Et vous êtes soumis aussi aux aléas de la météo. Il n'y a pas longtemps, il y a eu du gel tardif, un petit peu surprenant. Ce n'est pas des choses rares, finalement, mais c'est toujours un coup dur. Comment on vit ça? Comment on le traverse?
Alors, pour le gel, il n'est pas tardif. Il était à l'heure. C'est va dire que c'était des vignes qui étaient en avance. Il a fait trop chaud avant. Elles ont débourré beaucoup plus tôt que prévu. Donc le gel arrive à peu près à cette même période-là, hein. Dans le Diois, c'est connu, hein. Quand vous installez, on vous dit, hein, le gel tardif, ça existe. Et donc il est arrivé au moment où il arrive d'habitude. En principe, on prend un peu de quelques bourgs qui gèlent à droite, à gauche, en bas de vallée, en fond de vallée, mais ça ne pénalise pas trop sur la production. Là, cette année, c'est que c'était bien sorti, et c'est arrivé quand c'est bien sorti, et du coup, ça a vraiment gelé de grosses parties des parcelles. Alors on a abattu, hein, au début, c'est normal, hein, les deux premières heures. Et puis après, la vigne, elle n'est pas abattue, hein, elle va se défendre, elle va ressortir des bourgeons, elle fera moins de raisins. Mais nous, il faudra toujours qu'on l'entretienne pareil, il faudra qu'on arrive à sortir une récolte. Et puis surtout, à la préparer pour l'année prochaine. Ça, c'est d'autres challenges, quoi. Et après, on réfléchit sur beaucoup de choses. Au début, on est un peu nombriliste, on pense à son cas personnel. Et puis après, on se tourne vers son voisin. Qu'est-ce que lui, il a vécu? Ah ouais. Et puis après, on se tourne vers les anciens aussi. Qu'est-ce que vous avez vécu avant? Parce que bah, on n'est pas les premiers HD, hein. Et comment vous avez fait? Et comment on peut faire pour la suite? Donc du coup, bah, on passe d'un passage de tristesse, parce que bah, c'est normal, hein, c'est le fruit de notre travail, à bah, une sorte d'émulsion, quoi. Bah, on va se tenir la main, on va se serrer les coudes, on va essayer de trouver des solutions, comment on va tailler l'année prochaine, parce que ça va être... Moi, j'ai jamais vu ça, je sais pas, où c'est que je vais mettre des coups de sécateur. Voilà, du coup, ça devient un échange. Et puis le Diwa, c'est quand même une petite appellation. Donc on se connaît tous plus ou moins. Et dans ces cas-là, y a plus de guéguerre entre l'un et les autres. Hein. On serre tous les coudes et puis on va y arriver, quoi.
Ça fait partie de l'apprentissage.
Ah, il est rude, celui-là.
Ouais, je suppose qu'il est rude, mais voilà, l'année d'après, si ça réarrive, on sait quoi faire et on peut apporter à son tour l'expérience à d'autres, à des jeunes qui débutent, par exemple.
Voilà. Mais j'espère qu'on s'en souviendra pas. Ça serait bien.
On n'a pas forcément envie chaque année de revivre cette expérience, comme on n'a pas envie de vivre voilà, une forte grêle. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement climatique comme ça, on est un peu impuissant, parce qu'on a certes un vignoble qui voilà, dégage voilà, des revenus pour pouvoir à des jeunes vignerons ou autres de s'installer, mais pas suffisamment pour se couvrir par exemple de filets anti-grêle sur les vignes ou de choses. Donc du coup, on est toujours entre deux et on est spectateur finalement de ces événements climatiques. Et c'est vrai qu'il y a une forte solidarité, comme Alexandre le soulignait, entre les vignerons. Il y a 300 vignerons sur l'appellation Clairette de Die. Et quand un vigneron est touché, il y a une solidarité pour l'aider. Par exemple, quelqu'un va être malade, va se casser un bras, il ne peut pas tailler pendant un hiver. Et ben, c'est les vignerons des communes autour, ou ses voisins, ou même toute l'appellation qui peut venir finir le travail pour qu'il soit à l'abri voilà, financièrement, et qu'il n'ait pas ça en tête et qu'il puisse se consolider. Donc cette solidarité, elle est vraiment importante dans les vignerons. Alors là, le gel, effectivement, est très large. Donc, ouais, on peut que constater et puis partager avec ses voisins, mais c'est un point fort, la solidarité dans le monde paysan et surtout dans le monde vigneron de Diwa.
Tu l'as dit, large, les conséquences du gel, mais concrètement, qu'est-ce que ça va créer dans vos vies quotidiennes et dans votre travail et dans la prochaine récolte?
Concrètement, aujourd'hui, si on a une demi-récolte, on sera très satisfait. Même les estimations sont un peu au-delà des pertes, mais bon, on va dire qu'on a 50% de moins de récolte. Ça veut dire qu'à l'horizon, dans un an, juin-juillet 2018, on divise par deux votre revenu à l'hectare. Par contre, les charges ne sont pas divisées, parce qu'il faut vendre, il faut quand même travailler, il faut rembourser les emprunts pour les agriculteurs qui ont pu s'installer. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a un décalage, on est pris en ciseaux, donc on a des charges, on n'a plus les produits, donc pendant un an. Et ça veut dire que si on a une belle récolte en 2018, voilà, ça pourra peut-être se rééquilibrer, mais il ne faut pas d'année en année creuser le déficit. Donc c'est un temps difficile où il faudra négocier avec les banques des reports d'échéance, négocier voilà, des pré-relais, comme on peut l'avoir hein, sur des maisons en tant qu'individuel. Seulement que là, c'est une échelle qui est vraiment dépendante de nos revenus. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, on peut avoir des baisses très importantes de revenus, et donc il faut trouver... des solutions. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va essayer de les mettre en place au maximum.
Vous pouvez du coup un petit peu l'anticiper, ce qui règle, je suppose, pas le problème, mais ça permet d'y réfléchir là, en se disant la crise, finalement, elle arrive que dans plusieurs mois.
Alors oui, elle arrivera dans plusieurs mois au niveau trésorerie. Comme l'expliquait Fabien, il faut couvrir ses charges. Je pense que c'est la première chose qui est importante. Après, dans la majorité des viticulteurs, vignerons ou paysans de la région, ils ne font pas que du raisin. Parfois, ils ont d'autres cultures à côté qui ont plus ou moins pris le gel aussi, peut-être.
Oui, là, j'ai entendu parler des noix, par exemple.
Voilà. Donc, et puis, on est un peu plus réactif dans d'autres activités. Donc, moi, je vais reprendre une saison d'escalade. Voilà. Je vais essayer de pallier dans ce genre de choses-là. Mais ouais, c'est couvrir la trésorerie. Puis, on pense aussi à nos saisonniers. Parce que ben, là, on a un stade d'épamprage. L'épamprage, ben... on en a moins que prévu, donc on a un laps de temps moins grand à leur proposer. Les vendanges, ça va être la même chose, il va y avoir moins de raisins. Et en fin de compte, c'est une cascade de choses qui va leur arriver à eux, qui sont quand même fidèles, qui viennent chaque année pour ne pas bosser très longtemps, mais bosser dans une bonne ambiance. Et ben, il y en a peut-être qui ne vont pas revenir, qui vont se dire ben, on va essayer autre chose. Ça, ça a des conséquences à long terme, autres que nous-mêmes aussi. Ça touche, enfin, je ne sais pas, moi, un saisonnier qui vient ici... qui rencontre une saisonnière, qui décide de s'installer dans le Diwa parce qu'il est bien, ça font des enfants, ils vont à l'école, tout ça compte, quoi.
C'est vrai que ça va toucher l'emploi également de l'ensemble de la chaîne, comme disait Alexandre.
Voilà, on a eu une note d'optimisme en parlant du travail et de la passion. Et puis toi, tu l'as dit tout à l'heure, on pleure 2 heures et puis ensuite, on se dit comment on va arriver à passer la crise. Puis là, bon, on s'est un peu penché sur ce qu'il y avait de tragique, mais c'est important que les gens sachent aussi les conséquences à long terme et ce que c'est la réalité quotidienne et puis la réalité économique aussi des viticulteurs et des vignerons. Mais si on devait finir à nouveau sur une petite note optimiste, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs de Radio Diwa qui écoutent ce direct en ce moment et à propos de votre métier et de ce qui vous touche particulièrement
Ah ben, faut continuer, faut pas arrêter. Non, c'est un beau métier, hein. Que ce soit vigneron, viticulteur, paysan en général, quoi, c'est un beau métier, quoi. C'est un des premiers métiers au monde, donc il faut continuer. Et puis voilà, ça a gelé aujourd'hui, ça fera beau demain et ça continue, hein. Tout continue, il n'y a rien qui s'arrête. Hein. La vigne, elle a besoin de nous, nous on a besoin d'elle. Et puis je crois que les gens dans la rue, là, ils aiment bien ce doux breuvage.
Ils ont l'air d'apprécier.
Ils ont l'air d'apprécier.
Ouais. Oui. Ils ont l'air d'apprécier. Et juste une dernière question, est-ce qu'il y a des spécificités dans le Diwa par rapport à ce métier, est-ce que vous vous retrouvez vraiment avec les autres vignerons d'autres régions ou est-ce que encore pour ça, parce qu'il y a des spécificités diwoises, on les connaît dans plein de domaines, mais est-ce que pour ça aussi vous retrouvez une ambiance différente, une mentalité qui change un peu ?
Je pense qu'il n'y a peut-être pas quelque chose de vraiment spécifique au Diwa, il ne faut peut-être pas non plus aller jusque-là, mais par contre il y a quelque chose qui est important, c'est un vignoble de montagne. Et ça, c'est important. On est sur l'arc alpin. Il y a certains regroupements de tous les vignobles de l'arc alpin. Et je pense qu'on partage tous la même chose. C'est la souffrance au travail, mais le plaisir qu'on en requiert, en fait. Et du coup, ça, c'est important parce qu'on est dans des montagnes, des conditions difficiles, mais à la fois, on a un grand plaisir à y aller. Il gèle, mais on va se relever. On va continuer. Il y a des raisins, voilà, une moitié de production peut-être. Voilà, on va les mener au bout. Donc, il y a ce côté montagne qui est très important, je pense, dans l'identité des vignerons de la Clairette de Die.
Ouais, je crois que tout est dit. Hein. Ça, voilà, c'est une petite appellation aussi. Je pense que les gens doivent se rendre compte que, enfin, même si la Clairette est connue au quatre coins de la France, ce qui est très bien, c'est que ça reste quand même une toute petite appellation. On ne cherche pas à être concurrent aux grandes appellations, mais il y a cette spécificité-là. Ouais. C'est tout petit, donc tout le monde se connaît. Hein. C'est comme dans une école. Ce n'est pas un collège ou un lycée, là.
On se croise tous les jours. Tout petit, mais connu à l'autre bout du monde, quand même.
Tant mieux.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup Fabien Lombard.
Merci.
Et Alexandre Lutic. On va continuer avec une petite pause musicale et puis merci d'être venu vraiment parler de votre métier pour de vrai. J'espère que les gens ont un aperçu un peu plus complet de ce qu'est votre quotidien.
Merci.